vivre, c'est ouvrir des possibles. Et ce qui m'intéresse, c'est comment repossibiliser sa vie.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Tout de suite, nous allons vivre et rouvrir des possibles en compagnie du philosophe François Julien.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Vivre est ce verbe infiniment discret, muet, en retrait, qui ne nous parle pas. Et même, vivre ne s'éprouve pas, ou ne s'éprouve qu'à la limite, ne s'éprouve au mieux qu'à son orée, même si l'on est constamment habité. Vivre laissant alors affleurer le sentiment d'exister. Vivre n'est même pas une activité, mais l'amont silencieux de toutes nos activités, le puits enfoui d'où elle ne cesse de procéder. Ce pourquoi également vivre n'émerge que si difficilement à la pensée. Aussi, vivre est-il le verbe neutre, incolore, inexpressif par excellence, en même temps qu'il est le plus intensif, ou mieux, celui dont procède toute intensité? C'est ce qu'écrit notre invité. François Julien est à nos côtés. C'est une religion née au siècle dernier au Congo, le kimbanguisme, défini par le professeur Jean-Philippe Schreiber. C'est tout à l'heure dans notre grand dictionnaire. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
François Julien, vous êtes philosophe, helléniste et sinologue. Vous êtes l'un des penseurs contemporains les plus traduits dans le monde et vous signez de nouveaux livres, La transparence du matin, dont je lisais un extrait à l'instant, et Rouvrir des possibles, deux essais qui vont alimenter notre conversation. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'être en vie, François Julien?
Oui, être en vie, nous y sommes tous, mais il y a autre chose qui est accéder à vivre. Donc, être en vie, c'est la condition dans laquelle nous sommes de notre naissance, donc de façon immémoriale pour nous. Et en même temps, c'est ce qu'on n'atteint jamais. Donc c'est cette contradiction qui fait, je crois, notre tension de vie. Le fait qu'on est en vie, mais qu'on souhaite vivre enfin.
Vivre enfin, c'est-à-dire?
Enfin, parvenir enfin à vivre, c'est-à-dire non pas seulement être en vie, c'est-à-dire ne pas être mort, mais accéder à la vraie vie. C'est-à-dire être effectivement, et au fond, nous n'aspirons qu'à cela. Nous n'aspirons pas au bonheur ou à je ne sais quoi d'autre. Nous aspirons à pouvoir enfin vivre. Donc, ce qui me paraît le plus caractéristique de notre condition, c'est qu'à la fois, être en vie, c'est la condition de toutes les conditions. Et en même temps, c'est l'aspiration de toutes les aspirations. Donc, nous sommes en tension entre les deux. À la fois, je suis en vie, et en même temps, je n'arrive jamais complètement à vivre, à vraiment vivre.
Ouais, vous l'écrivez de cette manière-ci. Vivre est en quoi je me trouve depuis toujours immémorialement engagé, mais en même temps, vivre est à quoi je ne parviens véritablement jamais. Simplement vivre, écrivez-vous. Simplement vivre. Pourquoi est-ce si compliqué?
Parce que c'est simple. Parce que, si vous voulez, vivre, c'est l'élémentaire, ce qui est donné en premier.
C'est le biologique.
Et en même temps, c'est-à-dire qu'être en vie est biologique. Ce n'est pas être mort. Mais si le contraire de l'être en vie, c'est la mort, il y a un contraire de être vivant, vraiment vivant, enfin vivant. Et le contraire, c'est quoi? C'est la non-vie. En fait, il y a plein de non-vie dans notre vie, ou plutôt, il faut essayer de sortir de la non-vie de sa vie pour commencer à vraiment vivre. Donc je crois que c'est ça qui est en jeu, c'est qu'au fond, il y a deux dimensions d'en vivre, le vital et le vivant. Le vital, être en vie au sens de ne pas être mort, et puis le vivant comme étant pleinement, vraiment en vie, effectivement en vie. Et là, il s'agit d'une aspiration qui n'est jamais comblée. C'est pour ça que je parlais dans mon livre de nostalgie de la vie dans la vie.
Oui.
Il y a la nostalgie de ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'a pas, mais il y a la nostalgie de ce qu'on a. Et là, on entre dans la difficulté de penser vivre. La nostalgie de ce qu'on a, mais qui justement, parce qu'on l'a, eh bien, on n'y accède pas. Le fait d'être en vie, c'est qu'on a d'autant plus de mal à accéder à vivre.
Mais que faire alors, François Julien? Que faire en sachant tout ce que vous venez de nous expliquer? Pour enfin vivre, pour simplement vivre.
Je pense qu'il faut réfléchir, enfin en tout cas c'est mon métier de philosophe qui m'est conduit, il faut réfléchir entre, justement d'abord, éliminer tout ce qui fait marcher aujourd'hui, du développement personnel, du bonheur, enfin, qui veut nier tout négatif interne à la vie. Comme s'il n'y avait de négatif qu'extérieur, qu'on pourrait comme ça, dont on pourrait se débarrasser. Non, il faut penser que vivre est paradoxal, vivre est contradictoire. Je cite la grande phrase que Adorno place en exergue à ses minima moralia, « La vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. » Il faut partir de là, je crois. Parce que sinon, on est dans une sorte de fait facilité du jeu positif, n'est-ce pas? Cette façon de... Ouais, c'est le marché du bonheur, ça. Mais non, penser que la vie ne vit pas, c'est-à-dire que la vie elle-même est en contradiction avec elle-même. Parce que la vie, en fait, rabat cet élan de vivre. Elle ne cesse de le rabattre. Et déjà,
Mais on ne peut pas échapper à ça.
Non, on ne peut pas échapper à ça. C'est parce que c'est constitutif du fait de vivre. Donc, on peut pas y échapper. On peut se boucher les yeux. On peut se, bien sûr, on peut ne pas le voir. Mais je crois que les philosophes l'ont toujours pointé, cela. Et au fond, la formule de ce petit livre, La transparence du matin, c'est qu'il y a une inanité de la vie, mais il y a l'inouï de vivre. Et je pense que vivre, c'est justement rouvrir l'inanité de la vie, l'inanité, je ne dis même pas la vanité, l'inanité, inan, c'est-à-dire vain, rouvrir l'inanité de la vie à l'inouï de vivre. Il y a le rabattement d'une part, le débordement de l'autre. La vie ne cesse de se rabattre elle-même, mais en même temps, elle peut se déborder, c'est-à-dire on peut sortir des cadres déjà constitués, déjà figés de l'expérience pour en entendre l'inouï. Et je crois que nos vies se décident dans cette alternative. Soit on subit l'inanité de la vie qu'on constate, soit on trouve le moyen. Je parlerai de stratégie face à cette difficulté de vivre, de la vie, eh bien, pour en déborder, je ne dis pas dépasser, qui est le grand verbe de la métaphysique, mais déborder les cadres installés de notre vie qui font notre vécu pour, disons, fissurer.
Mais quelle stratégie alors pour aller vers ces débordements dont vous nous parlez, François-Julien?
Qu'est-ce qui fait qu'on vit vraiment? Eh bien, il y a différents types d'expériences qui, de ce débordement qui nous remettent en chemin de vraie vie. Par exemple, la capacité d'alternance dans sa vie. Si j'ouvre de l'écart dans ma vie, au lieu d'avoir une vie comme ça, normée et disons neutralisée par
routinière.
Le quotidien, pouvoir faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire risquer sa vie de divers côtés, ce qu'on appelle la vie alternante, n'est-ce pas? Pouvoir faire un extrême parce qu'on fait l'autre extrême, ne s'immobiliser dans aucune position, mais ouvrir de l'écart dans sa vie, pouvoir vivre à la fois, si vous voulez, la gaieté débordante et, disons, la désespérance, pouvoir faire les deux. Voilà, ouvrir de l'écart dans sa vie, ça permet de vivre à des extrêmes qui débordent l'ornière de la vie.
Ce que vous nous apprenez aussi, François-Julien, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à sa vie pour pouvoir déployer la vie. Et donc, pour accéder à ce que vous appelez la vraie vie. Ça semble paradoxal, ça.
Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est l'évangile de Jean.
Que vous reprenez.
Parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans Jean, c'est qu'il a deux mots pour dire vie. En fait, le grec en avait trois. Le grec peut dire la vie morale, poétique, c'est bios en grec. Et puis le souffle de vie, c'est-à-dire la vie du vital, l'être en vie, c'est psyché en grec. Et puis il y a un autre sens que promeut Jean, qui est la vie vraiment vivante, la source de vie. Et ça c'est Zoé. Et donc c'est Jean qui dit que, qui s'attache à sa vie en tant que psyché, souffle de vie, être en vie, eh bien ne vivra pas vraiment, n'accédera pas à la Zoé. C'est Jean qui le dit, c'est un paradoxe. Je le souligne parce qu'il n'est pas dans les... chez les autres évangélistes, parce que je crois que vivre est éminemment paradoxal, c'est ce que j'ai dit en débutant, n'est-ce pas ? Être en vie comme condition et vivre vraiment comme aspiration. Là, il y a du paradoxe. Et je crois que la philosophie doit penser le paradoxe et vivre est éminemment paradoxal. Renverser l'inanité de la vie en inouï de vivre, voilà, c'est une tension résultant d'un paradoxe constitutif. Alors, est-ce que
Mais vous êtes d'accord avec Jean, si je puis dire, vous pensez qu'il
c'est
ne faut pas s'attacher aux soucis de sa vie pour vivre?
Tout le monde l'a dit, enfin tous ceux qui pensent le disent, n'est-ce pas? J'ai plein d'auteurs qui disent la même chose, qui disent au fond quelque chose qui est constitutif, c'est-à-dire que si on s'attache à être en vie, qu'on devient dépendant, qu'on est dans cette adhérence vitale, eh bien... on se ferme, la vie ne se possède pas. Donc on se ferme à une possibilité qui déborde nécessairement cet attachement, qui est de vraiment vivre. Je crois que c'est une banalité de la pensée, mais tellement comprimée, tellement recouverte, qu'on n'arrive plus à le penser. Parce que vivre ne se pense qu'à la lumière du paradoxe. Là, il faut distinguer la pensée de l'être, qui, elle, a exclu le paradoxe au nom du principe de non-contradiction.
Être ou ne pas
donc,
être.
Oui, en termes de propriété, d'opposition, etc. Bon, ça, c'est l'être, la pensée de l'être. Mais vivre échappe à ça. Et vivre ne se construit pas comme la pensée de l'être s'est construite. Donc vivre est un verbe qu'il faut détacher de l'ombre de l'être dans lequel il se trouve comme ça placé pour le penser et dans sa force paradoxale Et c'est vrai que c'est plutôt le religieux qui l'a fait. En tout cas, un certain religieux, comme, disons, dans la pensée de Jean, que j'indique là, pas du tout disons, dans un ordre de foi ou de croyance, pas du tout. Mais je lis Jean comme je lis Platon, comme je lis les auteurs chinois, c'est-à-dire dans sa cohérence. Et je crois que cela est clair. Mais ce que je dis de Jean, les Chinois l'ont pensé. Dans le Zhuangzi, je cite un passage où il est dit qu'il faut se dégager de l'être en vie et de tout ce qu'il en lise pour parvenir à la transparence du matin. Donc je crois que c'est une conception qui ne cesse de travailler au sein même de la pensée du vivre que le fait qu'il faut se désengager de l'attachement à la vie pour commencer à vraiment vivre.
Vous proposez plusieurs définitions du verbe « vivre » dans votre essai « La transparence du matin », comme celle-ci « vivre » est affronter l'invécu jusqu'à la mort. L'invécu, François Julien, c'est tout ce que nous n'avons pas encore vécu et que nous pourrions peut-être vivre un jour ?
Oui, c'est-à-dire pour entrer dans le verbe « vivre », dont on voit bien qu'il est si difficile à pénétrer par la pensée, j'ai proposé plusieurs oppositions, celle du vital et du vivant, l'être en vie et puis le vraiment vivant, celle du vécu et de l'invécu, parce que le vécu, bon, là aussi c'est l'ordre de la possession, j'ai du vécu, il a du vécu plutôt, on le dit plutôt de l'autre, il a du vécu, comme une sorte d'acquis progressif qu'on a comme ça accumulé dans sa vie. Et évidemment, avoir du vécu, ça va de l'expérience, donc ça paraît d'abord positif. Mais en même temps, ce vécu que j'ai accumulé risque de me borner dans mon ambition ou dans ma vocation de vivre, de la cadrer justement, et donc de la rabattre. D'où je construirai en vis-à-vis le terme d'invécu pour le porter au concept, ce qu'on n'a pas encore vécu. Et au fond, je pense que nous vivons, nous nous levons le matin pour aller vers de l'invécu. Parce que si je reste dans mon vécu, je me répète, c'est l'inanité de la vie. Alors que penser qu'il y a tant d'invécu que je n'ai pas vécu, y compris l'invécu de la mort, qui est le dernier, n'est-ce pas ? Donc, qui est à explorer. Et c'est ça qui rend la vie aventureuse et donc l'ouvre à ce que j'appelle l'inouï de vivre.
Est-ce que j'ai encore dans ma vie de l'invécu à vivre ? Ça serait pour vous la seule question qui importe. Pourquoi est-elle si importante, François Julien ?
Quand on est en relation avec quelqu'un, on a un lien, comme on dit. La question, c'est quel invécu j'ai encore avec cette personne ? Est-ce que j'ai tout vécu avec elle ? Dans ce cas-là, la relation est morte. Mais est-ce qu'il y a encore de l'invécu avec cette autre personne, donc du à vivre, qui m'appelle à vivre ? Et je crois que c'est effectivement la question que je me pose, dans la relation, disons, intime, où quand on vit avec quelqu'un, c'est y a-t-il encore de l'invécu à vivre ? Si tout est vécu, eh bien, c'est rengainé, c'est rangé, et disons, c'est de la non-vie dans la vie.
La mort de l'invécu, c'est la mort du couple, François-Julien ?
Bah oui, ça me paraît, disons... J'allais dire tomber sous le sens. C'est-à-dire que ce que cette rencontre avait de vie, progressivement s'est retirée et devient une relation stérile ou, disons, oui, relation morte, dont je n'attends plus rien. Et donc, penser l'invécu, c'est une exigence. Qu'est-ce que je peux encore avoir à vivre avec cette personne ou, disons, dans mon travail intellectuel ? Qu'est-ce que je peux avoir encore à, n'est-ce pas, ouvert devant moi en attendant d'être fait, d'être vécu et qui donc... construit une exigence du dedans même de ma vie et pas une exigence qui viendrait se projeter de l'extérieur comme un commandement ou une obligation.
Mais parfois, on aime revivre ce que nous avons déjà vécu par le passé et ne pas pour autant avoir envie d'aller vers de l'invécu, François-Julien.
Votre vie est rabattue.
D'accord.
Si elle est repliée sur son souvenir et, disons, ne fait que coïncider avec elle-même, si je reprends ce terme, oui, c'est une vie rabattue, mais on vit ça couramment. Donc, ce n'est pas une étrangeté, c'est plutôt la
mesure. Et c'est grave, François-Julien ?
Écoutez, ça, c'est chacun son jugement. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'exigence. Pour moi, c'est une vie stérile, une vie perdue, une vie rabattue. Vivre, c'est ouvrir des possibles. Et ce qui m'intéresse, c'est comment repossibiliser sa vie. Donc une vie qui a perdu ses possibles, qui devient une ornière, qui devient, si vous voulez, quelque chose qui n'est plus travaillé par l'intensité de vivre, pour moi, c'est une vie perdue. C'est une vie résignée, enlisée, aliénée, et comme on dit finalement, réifiée, devenue chose. C'est une vie chose, ça s'appelle la non-vie. Alors, c'est grave, c'est pas une question de valeur, chacun après en fait ce qu'il veut, mais encore une fois, je n'oblige personne à me lire.
Vivre, c'est selon vous le seul sujet des romans et en particulier de cette œuvre-ci.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé.
Ce sont les premiers mots de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est une lecture d'André Dussolier. Vivre est à la fois décrit et réfléchi avec Proust, nous dites-vous.
Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a trois modalités principales pour accéder à vivre dans la pensée. Une, dans la mesure, et ce n'est pas la philosophie. La philosophie a pensé de l'être, n'est-ce pas ? Et quelque part a laissé tomber vivre. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la philosophie grecque. Quand on demande à Socrate qu'est-ce que Sophia, la sagesse, il répond épistémé, la connaissance. Et la philosophie, par son projet de connaissance, a laissé tomber vivre. Alors normalement, c'est le religieux qui a récupéré ce vivre sous la figure du paradoxe. On citait Jean dans ce sens-là. Et puis il y a la littérature, et d'abord le roman. Et le roman, effectivement, est dans cette capacité à explorer vivre à travers du récit, à travers des variations, à travers toutes ces l'enchaînement, n'est-ce pas, qui est le sien. Et il me semble que c'est ce qui est au centre de tous les romans. Et d'abord, des rencontres, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui rencontre quelqu'un, qu'est-ce que ça, justement, fait apparaître d'un vécu et qu'il va vivre, etc. Et Proust, disons, est celui qui peut-être porte à la plus extrême limite cette capacité du roman. Mais c'est ce qui travaille les romans de Balzac, de Stendhal, etc. Mais
ouais, Proust, parce que vous dites davantage. D'ailleurs, parce que vivre ne s'atteint jamais complètement, on ne cessera d'écrire des romans. Le narrateur de Proust, on l'a entendu évoquer à l'instant, ses impressions au réveil. Que se passe-t-il, François Julien, au moment précis où vont se déclore nos paupières ?
Oui, alors, dans le passage, là, la page liminaire du temps perdu, c'est le sommeil, c'est l'enfoncement dans le sommeil qu'il décrit, avec un réveil, mais qui est un réveil juste après l'endormissement. Ouais. Le vrai réveil proustien, c'est le réveil du matin, quand le narrateur est encore dans le lit, mais qu'il perçoit les bruits de la rue, qu'il perçoit, disons, à la limite des rideaux, le jour et l'état du jour, et qu'il se rend compte que ce sera un jour de pluie ou un jour de tempête ou un jour, bon, etc. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'a pas le spectacle de la rue sous les yeux. Non, il en est retiré. Et ce que décrit très bien Proust, c'est cette transparence du matin. C'est-à-dire quand notre vie se dégage par la transition de la nuit, du silence, se dégage du rabattement de la veille, et qu'elle n'est pas encore rabattue par le jour qui va suivre, les occupations qui vont reprendre et tout ce qui va faire le quotidien, la journée. Donc il y a un moment, si vous voulez, et je trouve ça précieux parce que c'est indiciel, le fait que le matin, au réveil, quelque chose s'ouvre à titre de possible, se dégage comme le ciel peut se dégager, qui fait qu'une possibilité de vivre apparaît, qui n'est pas encore rabattue. Donc je crois que c'est quelque chose qui est une ressource de nos vies, qu'il faut essayer de réfléchir. Et je crois cela par l'expérience chinoise que j'évoquais tout à l'heure, aussi bien dans le Mencius que dans le Zhuangzi. Cette capacité, donc, qui, je ne fais pas du comparatisme culturel, surtout pas, je ne cherche surtout pas des lieux communs à la pensée. Mais je vois qu'il y a des croisements à travers des langues si diverses et des temps qui s'ignoraient. Et il y a cette... je ne peux pas soupçonner Proust d'avoir appris ça chez Mencius ou chez tel autre penseur chinois. Mais néanmoins, quelque chose, une exigence... Ce commun, c'est une exigence de la vie qui est que la vie, se dégageant de ce qui l'encombre, en se découvrant, eh bien, laisse apparaître cette transparence du matin. Et donc, par immanence, par dégagement, pas par, encore une fois, de la chance ou du miracle ou je ne sais quelle causalité extérieure. Non, du dedans d'elle-même, la vie peut transparaître. Plutôt, vivre peut transparaître de la vie Et je crois que c'est un paraté. Et c'est ce que, si j'en ai fait titre, c'est parce que pour moi, c'est une valeur indicielle de ce que peut être justement l'accès à la vraie vie, c'est-à-dire à de l'invécu, c'est-à-dire à quelque chose qui est une exigence de la vie, dans la vie, à l'encontre du rabattement à laquelle ne cesse d'être exposée ou condamnée la vie.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Les lendemains ne chantent plus, c'est ce qu'observe notre invité, c'est le philosophe François Julien qui est avec nous. La transparence du matin et rouvrir des possibles, ce sont les titres de vos deux nouveaux livres. Et dans rouvrir des possibles, vous écrivez « Nous ne croyons plus désormais en l'avenir ». Illustration.
Il n'y a pas de sens. Enfin, j'arrive pas à comprendre le sens de tout ça.
On demande un avenir sûr. Est-ce que c'est vraiment trop demandé ? Too much
to ask. Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans rebers, nous cherchons de nouvelles couleurs.
On s'enferme là, on s'enferme dans quelque chose qui est... et qui rend triste tout le monde en plus, hein, qui produit en masse de la tristesse, et de la dépression, du mal-être. C'est un système qui ne marche pas, voilà, qui a montré qu'il ne marchait pas. Ouais.
On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume parce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Et vous aurez peut-être reconnu Aurel San ou encore l'écrivain Alain Damasio. Allons-nous vers le crash? En tout cas, c'est un sentiment qui est aujourd'hui fort partagé. Vous en dites quoi, vous, François Julien?
J'évite les images trop dramatiques, parce qu'elles sont un peu complices d'une certaine passivité. D'accord. On va dans le crash, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Non, je pense qu'il y a autre chose à faire. Ce qui relie mes deux textes, la transparence du matin et rouvrir des possibles, c'est l'idée de possible. L'idée de possible. Repossibiliser. Et c'est ça qui m'intéresse. La grande dramaturgie, si vous voulez, bien ou mal jouée, de tout va mal, je l'entends, évidemment, comme tout le monde dans la société, mais je ne m'y arrêterai pas parce que... Il y a un fait effectivement marquant qui est que ce qui fait notre époque, par différence avec les précédentes, c'est qu'on ne peut plus tracer de plan de la cité idéale. C'est comme ça qu'on a conçu le politique en Europe, depuis les Grecs, c'est qu'on traçait, disons, oui, la cité idéale. Et c'est plus possible, pourquoi ? Parce que pour modéliser, il faut pouvoir isoler. Or, dans le monde contemporain, mondialisé, on ne peut plus isoler.
Et d'autre
part, il faut qu'il y ait... Bah oui, c'est interdépendant, le marché mondial, tout cela fait qu'il n'y a plus de bulles possibles. D'autre part, pour projeter le plan de la cité idéale, ce qui aujourd'hui n'est plus possible, il faudrait qu'il y ait un avenir consistant sur lequel faire le projeter. Or, cet avenir consistant, c'est des faits. Ce qu'on entendait là comme réaction diverse le dit, n'est-ce pas ? L'idée que nous vivions dans une sorte de progrès continu, nous pensions que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que la vie des enfants serait meilleure que celle des parents, ça ne marche plus. Par tout ce qu'on sait de la planète, par tout ce qu'on sait de ce qui désassure, si j'ose dire, notre vie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le plus couramment, c'est ce qu'on appelle le présentisme. Revenir sur présent et, disons, s'y complaire de façon morose. Je propose autre chose, oui. À savoir, dans ce présent, qui est notre seul horizon de vivre, puisque l'avenir, à venir, disons, ne s'impose plus à nous dans son futur de lendemain enchanté, eh bien, c'est dans ce présent détecter, remarquer, analyser ce qui coince, ce qui bloque le présent. Et ce qui bloque le présent, tenter de le défaire, tenter de le fissurer.
C'est ça, pour fissurer, ça c'est vraiment
c'est ma proposition.
Un verbe que vous employez à de nombreuses reprises.
Oui, c'est pas un verbe pompeux, c'est pas un verbe théâtral, c'est un verbe discret. Non pas renverser, qui en aurait la force ? Non pas dénoncer, est-ce que ça serait bien quelque chose ? Non, fissurer, verbe modeste effectivement, mais fissurer cette carapace qui bloque de façon à rouvrir des possibles, remettre en chantier, remettre au travail la pensée et la société.
Quelle est cette carapace ?
Alors, cette carapace, je l'ai évoquée sous le titre de la coïncidence, c'est-à-dire des adéquations qui se sont figées, par là deviennent mortelles, parce qu'elles ne font plus qu'enliser. Vous savez, coïncider au sens premier, c'est quand au sens géométrique, quand deux lignes ou deux surfaces se recoupent complètement l'une l'autre. C'est donc adéquat. L'adéquation, c'est bien. Mais toute adéquation est portée d'elle-même à adhérer à son adéquation, à s'en satisfaire, à s'en contenter, donc à s'y enliser. Et donc on passe du positif de l'adéquation à la positivité, c'est-à-dire un positif rabattu, stérilisé, enlisé, paralysé, n'est-ce pas, et qui vient coincer.
Mmh. Est-ce donc, que vous pouvez nous offrir une illustration dans les temps que nous traversons d'une coïncidence ?
Alors, je vais peut-être faire par deux illustrations.
Allez-y.
La première d'expérience, la plus commune. Je dirais, un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide. C'est-à-dire qu'il défait la coïncidence installée de l'art. Mmh. Sinon, il refait de l'art déjà fait. Et je dirais même, de façon plus exigeante, un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'adéquation de la coïncidence d'art à laquelle il est parvenu la veille. Mmh. Je ne pense qu'autant que je décoïncide, c'est-à-dire qu'autant que je défais l'adéquation de la pensée du déjà-pensé.
Le philosophe ne cesse de décoïncider ?
Bah oui, bien sûr, sinon il enferme sa pensée en système et, disons, il ne cesse de ressasser une vérité qui serait déjà acquise. Justement, effectivement, penser, c'est décoïncider du déjà-pensé. Donc, sortir de l'adéquation constituée de la pensée pour la remettre en chantier, pour ouvrir du possible. Je pense que c'est très général. Si je passe aux politiques, je dirais une idée, dès lors qu'elle est collectivement assimilée, qu'elle n'est plus questionnée, devient de l'idéologie. Parce qu'elle devient coïncidente. Alors, des exemples, je ne sais pas s'il y a en Belgique, mais en tout cas en France, vous voyez le mot résilient.
Oui.
C'est un terme qui est devenu coïncident. Quoi qu'il arrive comme négatif, un incendie, une pandémie, n'importe quoi, on met ça comme sparadrap, commode bien sûr. Mais vous voyez bien que c'est un terme qui est devenu coïncident. Coïncident, c'est-à-dire qu'il n'est plus réfléchi. Or, résilience avait un sens pertinent, juste, en physique, en psychologie, mais dès lors que le mot devient collectivement assimilé, donc il n'est plus réfléchi, donc il n'est plus inquiété, il devient un terme coïncident, un terme mort. Et j'en aurai d'autres, évidemment.
La plainte avec un P majuscule aussi.
Peut-être que ça vaut particulièrement pour la France, moins pour la Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas, la plainte en France, oui, c'est une sorte de terme coïncident, n'est-ce pas, qui, en toute occasion, est devenu une sorte de motif obligé et donc tellement assimilé qu'il n'est plus réfléchi, qu'il n'est plus questionné. Et c'est ça qui fait couvercle ou qui fait carapace. C'est que nous vivons sous des carapaces de coïncidences idéologiques que nous ne voyons pas, mais qui percent notre vie et qui la rabattent, d'où ce qu'on entendait là à l'instant des commentaires des uns et des autres. Ce rabattement collectif, je trouve ça horrible.
Mais derrière la plainte, il y a des motifs justifiés, non ?
Certainement. Certainement, mais est-ce qu'il faut parler de résilience ? Est-ce qu'on pourrait parler de résistance ? Il n'y a pas d'autres modalités ? Est-ce que la résilience, c'est la seule à venir dans l'histoire ? Résilience, c'est-à-dire revenir à l'état passé ? Ça se réfléchit. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de la souffrance dans la société, loin de là, au contraire. Simplement, est-ce que c'est la plainte qui doit prendre en charge cette souffrance ? Est-ce qu'il n'y a pas justement des façons plus actives, plus d'initiatives ? Vous voyez, dans la plainte, il n'y a plus d'initiative. Il y a une sorte de complainte, c'est-à-dire d'accord commun à souffrir d'un état de fait sans chercher justement à le fissurer, c'est-à-dire à l'ébranler de façon à rouvrir du possible. Remettre en chantier la société, c'est ça qui me paraît important. Ce n'est pas de se plaindre. C'est
en trouvant de nouveaux mots ?
En fissurant les thèmes coïncidents, cadrés, dont les médias, pas les journalistes, je distingue, les médias sont quand même la grande machine à produire ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au fond, cette sorte de vox populi anonyme, mais en fait, enchâssée, produite par la machine médiatique, et qui fait que nous sommes dans une sorte de... dans des idées collectivement assimilées, encore une fois, qui sont plus réfléchies, sur lesquelles on n'a plus prise, qui s'imposent à nous et qui nous rendent passifs. Or, cette passivité, oui, je m'y oppose, parce que je pense que si la plainte tourne à la passivité ou la résignation, à l'enlisement, eh bien oui, je crois qu'il faut fissurer ça pour débloquer ça, décoincer notre société, notre pensée,
fissurer,
et notre société sont coincées. Bah oui,
décoïncider.
Je vous rappelle quand même la grande phrase de Solzhenitsyn quand il dit c'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer les cavernes. Vous savez de quoi il parlait, Solzhenitsyn ? C'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer les cavernes. Les cavernes ne se renversent pas et dénoncer les cavernes ne sert à rien. Par contre, les fissurer, puis ces fissures se rejoignent, s'étayent. Se font écho, et progressivement, c'est le cheminement des fissures qui fait effectivement tomber les cavernes.
Et donc, ce sont les fissures, ce sont les décoïncidences qui pourraient, par exemple, sortir la France des tensions autour de la réforme des retraites ?
Certainement. Absolument. Là, je pense qu'effectivement, il y a une coïncidence idéologique qui est un départ justifié. Le fait que le travail soit de l'aliénation. Mmh. C'était vrai à une époque, n'est-ce pas ? Au 19e siècle, les mines, etc. Travail égale aliénation. Aliénation par le capital, par, disons, des forces oppressives. Mais les conditions du travail ont changé depuis le 19e siècle à aujourd'hui. Le temps de travail, etc. Moi, je souhaiterais qu'au lieu de penser en termes d'années de travail, on pense en termes de qualité de travail. Non pas en quantité, mais en qualité. Et je pense que oui, fissurer cette idée que le travail se mesure par les annuités, par, disons, parce qu'on peut être... je veux dire, il faudrait beaucoup plus analyser ce qu'il en est de la qualité du travail et du désir qu'on peut aller travailler. Cela est totalement occulté par une sorte de coïncidence idéologique qui est que le travail est d'emblée de l'aliénation. Ça a été vrai, c'est encore vrai, sous certains aspects. Il y a des travaux aujourd'hui aliénants, mais il faudrait plutôt chercher à voir ce qui peut désaliéner le travail, plutôt que de le mesurer seulement en nombre d'annuités. Donc c'est un concept, la décoïncidence, qui va du philosophique au politique, à l'engagement politique, vous l'entendez bien.
Ouais.
Et je pense qu'il y a une stérilité du débat.
Et c'est même une arme pour vous, hein. Une arme et un outil de combat.
D'engagement, effectivement. Mais voyez bien, parce que qu'est-ce qui se passe quand ça coince? Il y a une sorte de résignation, il y a une sorte de passivité. Et donc, c'est contre ça que je suis, parce que la France a, comme on sait, plein de ressources, plein d'atouts, etc. Mais cela se trouve bloqué, enlisé. Et il me semble qu'il faut décoincer ce qui est coincé. Vous voyez, je ne sais pas si ça touche la Belgique, mais disons, il y a une sorte de, comme ça, de coïncidence idéologique en France, je pense en Europe, de suspicion à l'égard de l'élitisme. En fait, bien sûr, il y a eu l'élitisme bourgeois, enfin, bon, par favoritisme, par facilité sociale, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'on oublie collectivement l'exigence de la pensée. On prône un sportif ou un chanteur, un acteur, on en fait des héros, très bien. Simplement, l'exigence de pensée se trouve que recouverte aujourd'hui, je crois, par, disons... tout ce qui est de l'ordre du spectaculaire, du visible, de la visibilité. Vous voyez, avant, on parlait de notoriété, même avant de célébrité. Maintenant, la visibilité. Plus vous êtes vu, plus vous êtes connu. C'est un peu triste, non ?
On devrait davantage récompenser les philosophes plutôt que les sportifs ?
Non, je sais pas. Justement, je n'ai pas une cause en tête. Je ne défends pas un parti, je ne prêche pas. Je dis simplement que se laisser aller collectivement à des coïncidences idéologiques qu'on n'interroge plus, qu'on n'inquiète plus, nous rend passifs dans l'histoire. Donc, il ne s'agit pas de faire des philosophes, des rois, comme le voulait Platon, en éclatant de rire, bien sûr. Ouais. Il s'agit simplement de retrouver de l'initiative dans la pensée et dans la société. Initiative au sens latin, initium, de être de nouveau à du début des choses. Donc, retrouver l'initiative, une initiative des sujets politiques, plutôt que de vivre dans un rabattement sous des couvercles ou des carapaces idéologiques qui sont des coïncidences qui ne sont plus, disons, réfléchies, soupçonnées. Je crois que c'est essentiel, oui, parce que la révolution ne marche plus. Bien des engagements du politique, tout le monde le constate, il faut voir les élections. Donc, il y a bien une résignation collective contre laquelle il faut s'insurger, mais qu'on ne peut pas renverser. Donc, je crois que fissurer, verbe discret, modeste, mais qui chemine, et qui montre que c'est à l'œuvre. Ce à quoi je tiens le concept de décoïncidence, c'est un concept d'emblée à l'œuvre. On est d'emblée dans l'effectif. Ouais. On n'est pas en train de poser des principes ou d'assigner des fins. On est là, fissuré, là où je suis. Chacun fissure ce qui coince, ce qui bloque. Et par là, eh bien, rouvre de l'initiative et remet la société, comme la pensée, en chantier. Et voyez bien qu'aujourd'hui, les partis souvent sont dans la contre-coïncidence et non pas dans la proposition justement, qui projetterait vers un futur.
Ouais. Vous dites aussi que...
On dit non. Le non s'est figé comme le oui s'est figé.
Vous dites aussi que l'écologie devrait être précisément le lieu privilégié des décoïncidences.
Bah, oui, parce que l'écologie, Dieu sait que la cause est bonne, mais si vous voulez, elle est aussi sous le coup de ces coïncidences idéologiques ou de ce vocabulaire coïncident. Parce que qu'est-ce qui est, disons, à craindre, c'est toujours le rapport entre théorie et pratique. On me demande souvent quelle est la praxis de la décoïncidence. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de théorie. On vient défaire, on vient fissurer. Donc on ne pose pas de principe premier. Alors, ben, en écologie, si vous voulez, quand je prends un vélo en ville plutôt que la voiture, je décoïncide. Je sors de la grande coïncidence, n'est-ce pas, de la ville et de la voiture, et je décoïncide. Et je suis d'emblée dans l'effectif. C'est ça qui est actif, qui change la chose.
C'est aussi simple que ça, fissurer. Prendre un vélo plutôt
fissurer,
que la voiture.
Fissurer, c'est détecter. Non, mais vous me dites en écologie, je ne suis pas en train de parler de... j'ai analysé dans mon petit livre comment Galilée fissure la coïncidence aristotélicienne ou la coïncidence religieuse pour, disons, innover en physique et, disons, voilà, produire l'œuvre de Galilée, une nouvelle physique. Donc, dans l'écologie, oui, il ne faut pas craindre le terre-à-terre, il ne faut pas craindre le terrain. Sinon, on est dans la rupture de la théorie et de la pratique, de la théorie magnifique, prétendue magnifique, et de la pratique toujours en déperdition à l'égard de cette théorie. Non, je pense qu'effectivement, ce qui est mon souci, c'est être d'emblée dans l'effectif. Et quand je dis que penser, c'est décoïncider du déjà-pensé, ou que je ne pense qu'autant que je décoïncide de l'adéquation de pensée à laquelle je suis parvenu, je suis en chantier. C'est de terrain, c'est vrai.
Vous n'aimez guère le mot fin, François Julien. Mais là, ça y est, notre entretien touche à sa fin. Une fin qui peut-être ne serait pas un point final ? C'est ma dernière question.
Il n'y a pas de point final. Ce qui m'intéresse, c'est au travail, en chantier, repossibiliser. C'est donc prospérer dans cette activité qui ne se laisse plus cadrer par alpha et oméga, le grand lever ou le grand baisser de rideau.
Ouais, mais c'est quand même la fin de notre entretien.
C'est pour ça que j'écris des essais. Les essais laissent dans la pénombre à la fois leur point de départ et en point de suspension leur fin.
Merci François-Julien d'avoir été avec nous cette semaine. C'est toujours à la fois déconcertant et enrichissant de vous lire. Je rappelle les titres de vos deux nouveaux livres, La transparence du matin et Rouvrir des possibles. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
Et il est temps de vous dévoiler un nouveau mot, un nouveau concept issu de notre grand dictionnaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au kimbanguisme et avec nous, Jean-Philippe Schreiber. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'ULB, fondateur de l'Observatoire des religions et de la laïcité. Le kimbanguisme, une religion née en 1921 au Congo, Jean-Philippe.
Oui, alors le kimbanguisme, c'est à la fois un homme, Simon Kimbangu, un lieu, Nkamba, au centre du Congo. Et puis, c'est à la fois, je dirais, un élément important de l'histoire religieuse du Congo depuis un siècle. Et puis, c'est aussi un élément important de l'histoire coloniale du Congo depuis un siècle aussi. Alors, donc Simon Kimbangu est un homme qui vient d'un milieu modeste et qui, effectivement, autour de 1920... a des apparitions du Christ, et qui commence à pratiquer des guérisons miraculeuses. Il y a un mouvement qui commence à se développer autour de lui et de sa parole prophétique.
C'est une sorte d'envoyé spirituel ?
Ah, il se considère comme un envoyé de Dieu, effectivement. On le décrit comme un prophète, et c'est certainement un envoyé spirituel, et qui commence à soulever les foules. Et à l'époque coloniale, on est en 1921, évidemment, ça inquiète très fortement un pouvoir qui a très peur de la subversion. Et donc, on va considérer son mouvement comme un mouvement séditieux. On va emprisonner Simon Kimbangu. Il sera d'abord condamné à mort, il faut le dire, condamné à mort pour sédition. Sa peine sera commuée en peine capitale par le roi Albert, et il va passer 30 ans en prison jusqu'à sa mort. Mais en son absence, son mouvement se structure, et c'est là qu'évidemment le lien est fort avec l'histoire coloniale, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est considéré comme un mouvement subversif et qui doit vivre dans la clandestinité sa vie religieuse pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'à la veille de l'indépendance, il soit enfin reconnu et toléré. Entre-temps, il a suscité beaucoup d'adeptes, donc qui à la fois crée un mouvement dont le prophète est Kimbangu et qui s'inscrit dans la nébuleuse des mouvements prophétiques millénaristes du Congo. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce mouvement revendique à peu près 32 millions de fidèles au Congo et à l'extérieur. Et puis d'autre part...
Quand vous dites à l'extérieur, d'autres pays pratiquent également cette religion ?
Alors, ça a diffusé dans d'autres pays, notamment au Congo, Brazzaville, et puis jusqu'en Belgique, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de Congolais en Belgique qui sont de conviction kimbanguiste. Alors, ce mouvement va donc jouer un rôle dans l'histoire coloniale. Et aujourd'hui encore, on considère que Simon Kimbangu, en quelque sorte, même si son mouvement a professé une réaction non violente à l'ordre colonial, est en quelque sorte un héros de la lutte anticoloniale. Et puis d'autre part, sur le plan religieux, il y a ce lieu où Simon Kimbangu est né, Nkamba, au centre du Congo, qui est considéré comme un peu le nombril du monde par les adeptes du kimbanguisme, la Nouvelle Jérusalem. C'est là que doit se révéler le royaume de Dieu. Et il y a en quelque sorte comme une temporalité, d'une part la naissance de Kimbangu dans ce lieu à Nkamba, et puis la fin des temps qui doit se produire dans ce lieu. Et donc toute l'eschatologie kimbanguiste qui est le cœur de cette église est liée à ce lieu où est né Simon Kimbangu.
Qui porte cette religion aujourd'hui ? Ce sont les enfants, les petits-enfants ?
Alors ce furent ses enfants par la suite, c'est ses fils. Aujourd'hui, c'est particulièrement l'un des petits-fils qui, il y a de cela quelques années d'ailleurs, s'est proclamé réincarnation de Jésus-Christ sur Terre.
Rien que ça,
ce qui évidemment distingue très fortement par cette espèce de divinisation du prophète, distingue le mouvement kimbanguiste des autres mouvements religieux qui sont très nombreux en RDC. Mais évidemment, comme dans tout mouvement religieux, il y a aussi des dissidences et certains des petits-enfants de Simon Kimbangu sont porteurs d'une autre vérité qu'il colporte dans d'autres domaines.
Donc il y a plusieurs courants aujourd'hui.
Il y a plusieurs courants, mais enfin le courant principal est celui du petit-fils qui s'est proclamé réincarnation de Jésus-Christ et qui joue un rôle évidemment très marqué dans un contexte de grande pauvreté, qui joue un rôle très marqué pour servir de catalyseur à cette force spirituelle qui espère avoir une dimension politique, parce que le lien avec le politique a toujours été très marqué dans le mouvement kimbanguiste jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ces explications, Jean-Philippe. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
À très vite.
Et Dieu dans tout ça, sur la première.